Bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour la table ronde qui sera consacrée au thème de la machine chez Robert Heinlein. Donc sur ce sujet-là, je ne sais pas si ce sera l'occasion pour vous peut-être de connaître ou de mieux reconnaître ce grand auteur qui est un auteur majeur de la science-fiction, qui a été reconnu comme le premier grand maître par ses pairs, grand maître de la science-fiction, qui est auteur à la fois de nouvelles qui ont été recueillies notamment dans les Histoires du futur, également l'auteur de romans pour la jeunesse, notamment dans les années 50, et de nombreux romans, donc au moins 4, ont reçu des prix Hugo, donc la plus haute reconnaissance de la science-fiction. Bon, pour parler de cet auteur et nous faire partager leurs connaissances, donc je vous présente François Rouillet, qui est un auteur suisse, qui est l'auteur d'abord d'essais, Stupéfiction et Sans mou, vous voyagez dans la science-fiction, mais depuis cette année, un auteur reconnu d'un grand roman en 2 volumes, donc Metakin chez l'Atalante, donc indication et contre-indication, qu'il a également, parce qu'il est également illustrateur, illustré dans la très belle exposition que l'on peut découvrir aux Utopiales. À côté de lui, je la présentais quand même si ça a été notre grande maîtresse à tous lors de cette première Utopiale pour elle en tant que déléguée artistique, c'est Jeanne Adebasse, qui est auteure de science-fiction, de fantasy urbaine, de romans pour la jeunesse, dont Pixel Noir, cher à notre cœur, qui a reçu le prix des Utopiales, et qui est également une grande amatrice de Heinlein. Et à côté d'elle, donc Eric Pichel, physicien au CNRS à Nice, spécialiste en optique non linéaire et quantique, essentiellement les lasers et les fibres optiques, qui est également le co-auteur avec Hugo Bellagamba d'un essai sur Heinlein, Solution non satisfaisante, une anatomie de Robert Heinlein, et qui est également membre de la Heinlein Society. Donc, je souhaiterais peut-être commencer cette table ronde sur le thème de la machine, alors posant à chacun d'eux, en commençant par Eric, quelle est leur machine préférée dans l'œuvre de Robert Heinlein?
Pour moi, qui suis évidemment un admirateur inconditionnel de Robert Heinlein, mais aussi un passionné d'espace, ça sera incontestablement la torche. Robert Heinlein a inventé un très grand nombre des tropes SF. On peut dire que c'est quasiment l'un des pères de la science-fiction moderne et qui a inventé beaucoup de procédés narratifs, mais il a aussi inventé beaucoup de machines qui ont été reprises par les générations successives d'auteurs, et en particulier la torche, le vaisseau torche, qui est le vaisseau paradigmatique qui nous permet d'explorer le système solaire et les étoiles. Et pour moi, certainement ma machine préférée, parce que j'aimerais avoir mon vaisseau torche personnel pour aller sur Mars de temps en temps, quelques jours, mais aussi pour son influence sur la science-fiction en général.
Alors pour moi, c'est une machine biologique. C'est vendredi. C'est une femme artificielle biologique créée en laboratoire. Et c'est le personnage de femme qui m'a donné envie d'écrire. Parce que jusque-là, dans la science-fiction, je ne trouvais comme protagoniste que essentiellement des mâles. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'était frustrant pour moi. Et d'autre part, vendredi, cette femme qui a été créée pour être un esclave, m'a fait me poser des tas de questions qui sont totalement contemporaines, notamment celle du consentement. On ne demande pas forcément son avis à vendredi, et elle s'interroge sur comment est-ce qu'on peut recevoir le non-refus de l'être par le partenaire. Voilà.
Quant à moi, les machines chez Heinlein qui sont restées un peu dans ma mémoire, parce que d'une part, je ne suis pas un Heinleiniste très distingué, et d'autre part, les dernières lectures de Heinlein que j'ai faites, ça remonte déjà à quelques années. Mais je me souviens en particulier des machines qui sont des éléments d'augmentation du corps humain. Je me souviens en particulier des machines guerrières dans Starship Trooper, qui sont des espèces de procédés que l'on ajoute aux membres pour des exosquelettes que l'on ajoute aux combattants pour les rendre plus efficaces. Et c'est, à mon avis, une des premières fois dans la science-fiction où on a vu ce genre de gadget. On le voit aussi, je crois, dans son autre roman, Révolte sur la Lune, où un des protagonistes est handicapé, sauf erreur, il a un bras artificiel et une prothèse assez élaborée. Donc cet aspect réalité augmentée, corps augmenté, m'est resté comme élément de machine chez Heinlein.
D'ailleurs, Manny, le personnage dont tu parles, il ne se vit pas du tout comme handicapé. Son bras est... son bras artificiel qu'il peut choisir de changer à son gré suivant ses activités, y compris des activités ludiques et interpersonnelles, on va dire, pour lui, c'est une augmentation réelle et pas du tout un handicap.
Nous avons tous les trois répondu à la question sur la machine dans la fiction de Robert Heinlein. J'aimerais souligner que l'œuvre de Heinlein ne s'arrête pas là. Heinlein est évidemment un écrivain professionnel de science-fiction. Il a 50 ans de carrière, 50 ans d'œuvres majeures. C'est aussi au départ un homme politique. Sans refaire sa biographie, il a d'abord été officier, puis il a tenté d'être élu comme député socialiste autogestionnaire en Californie, dans le mouvement épique d'Upton Sinclair. Mais c'est quelqu'un qui a été passionné par la politique toute sa vie et qui n'a pas hésité à certains moments à utiliser sa fiction pour changer le monde, véritablement. Et c'est l'un des très rares auteurs du XXe siècle, toutes catégories confondues, qui a effectivement eu une influence tout à fait significative sur la politique de son temps et sur la vision de la science et de la technologie au XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle. Et pour moi, il y a deux machines qui, pour le coup, ne sont pas des machines fictionnelles, que j'associe aussi très directement à Robert Heinlein. La première, c'est la bombe. Robert Heinlein, je disais, a commencé par faire de la politique et s'intéressait à... Et c'était un socialiste. Donc s'intéressait aux mouvements sociaux, s'intéressait à l'économie, à ce genre de choses. Pour lui, l'événement majeur du XXe siècle, à tout point de vue, celui qui détermine absolument tout le reste, c'est Hiroshima. C'est l'invention de la bombe atomique. Plus rien ne peut être pareil après Hiroshima, après l'invention de la bombe atomique. Avant, on peut... s'intéresser à la politique locale, on peut chercher à voir comment améliorer les choses dans son coin. Du jour au lendemain, à partir du moment où il existe des armes de destruction massive, à partir du moment où l'humanité s'est dotée de la capacité de se détruire elle-même, plus rien d'autre n'a d'importance en quelque sorte. Il consacre plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale à construire ce qu'on a appelé ensuite la Fédération des physiciens atomistes. Vous connaissez probablement l'horloge qui donne les quelques minutes qui nous restent avant la fin du monde, qui a joué un rôle tout à fait majeur dans les politiques internationales de contrôle de la bombe atomique. Il a joué un rôle tout à fait influent là-dessus, et ses fictions étaient très lues et très commentées à Los Alamos. Et l'autre grande machine heinlienne, en quelque sorte, c'est la fusée. Dès la fin de la guerre, il essayait de promouvoir des missions lunaires. C'était une quasi-banalité pour des amateurs de science-fiction. Depuis avant-guerre, tout le monde rêvait de fusée, tout le monde rêvait d'aller sur la Lune. On avait des machines qui étaient, les V2 qui sont des armes, mais les générations suivantes de fusées conçues par Werner von Braun, qui n'a pas pu développer pour l'armée allemande, mais qu'il a ensuite développé pour les États-Unis, de toute évidence pouvaient mener assez rapidement à la Lune. Ce qui coinçait, c'est que les Américains n'étaient pas prêts à y aller. Aucun homme politique américain, juste après la guerre, n'aurait osé dire à ses condisciples, à ses citoyens, maintenant, après avoir sué sang et eau pour soutenir l'effort de guerre, il faut encore verser au pot, encore payer des impôts pour aller sur la Lune. C'est un discours qui n'était pas audible. Accessoirement, c'est un discours qui n'est pas beaucoup plus audible aujourd'hui. Les citoyens français et américains n'ont pas très très envie de payer des impôts pour une grande aventure spatiale. Et Robert Heinlein a consacré quasiment les 10 années qui ont suivi à militer très puissamment, en particulier en se servant de sa fiction, pour rendre possible le voyage vers la Lune. Et la fusée lunaire est pour moi la machine heinlienne par excellence, qu'on retrouve par exemple dans Destination Moon, qui est un des premiers très grands films de science-fiction réaliste en 1950, et qui a offert cette image de la fusée et qui l'a fixée très durablement dans l'imaginaire américain, par tous ses romans pour la jeunesse, par un très grand nombre de nouvelles qu'il a publiées dans des revues ou dans des journaux à très très grande diffusion. Mais la machine fusée dans l'imaginaire américain des années 50 et celle qui a donné Saturne V et les fusées qui sont effectivement allées sur la Lune, pour moi, ce sont des machines aliéniennes.
D'ailleurs, je reprends ce que tu dis là sur le fait qu'aucun grand pays n'a envie de se lancer dans l'aventure spatiale. Ça a été un étonnement total, en fait. Lorsque Chury, tout ça, lorsque le projet Mars a commencé, de voir arriver l'argument financier alors que il est évident, a priori, que notre planète ne va pas me suffire, c'est quelque chose qui m'a stupéfaite, qu'on n'ait pas envie d'aller dans l'espace. Et ça, peut-être que je suis totalement déformée par Heinlein, parce que, grande lectrice dès le départ de cet auteur, dès le départ dans les juvéniles, on va sur la Lune, on va dans l'espace, ça me paraissait la première chose que l'homme pouvait espérer comme transcendance visible, le vol dans l'espace. Et entre guillemets la conquête spatiale, parce que je le mets entre guillemets le mot, parce que Heinlein n'est pas un conquistador, c'est un explorateur. Quelque part je retrouve chez lui, ou plutôt je retrouve chez Star Trek, vieille manie chez moi là en ce moment, ce distinguo entre exploration et conquête spatiale. On n'est pas dans la conquête chez Heinlein, on est dans la recherche du savoir et les nouvelles potentialités de l'humain.
Ce dont je me souviens aussi dans les nouvelles et dans les livres de Heinlein, c'est que la technologie, en fait, est une compagne quotidienne des héros. On est vraiment dans un monde qui a assumé sa technologie, qui ne s'en étonne qu'à moitié, et qui, les personnages, par exemple, de ces juvéniles, je me souviens de Podcaïne, fille de Mars et autres, on a l'impression qu'on suit quelqu'un dans un quotidien qui est juste décalé dans un monde un peu plus technologique. Et y a une familiarité avec la science, avec la technologie, qui nous transporte d'une certaine façon dans cette époque, dans cet avenir proche. Ou proche ou lointain, ça, il a exploré toutes les dimensions, toutes les unités chronologiques dans le futur, effectivement.
Eh bien, typiquement, dans Le Vagabond de l'espace, qui est un de... Je crois que c'est ça le titre en français. On a un gamin qui fait un concours pour gagner une combinaison spatiale. Parce que c'est ça dont il rêve depuis longtemps. Et il la gagne, effectivement, la combinaison spatiale. Une vraie qui est allée dans l'espace, qui est fonctionnelle, etc. Il l'essaie, et là, c'est à ce moment-là qu'il est enlevé par les extraterrestres. Ça tombe bien. Voilà. Et là, à la suite de ça... Un de mes grands émerveillements de jeune lectrice, c'est l'alunissage subséquent, puisque je crois qu'à un moment ils ont il y a un problème avec le pilote dont il doit être responsable. Ils ont dû l'assommer, je ne sais plus. C'est ça, ils se sont débarrassés des pilotes.
Non, les pilotes ont cru les enfermer dans le vaisseau parce que il y a du vide dans la Lune et il n'y a pas d'atmosphère. Ont quitté le vaisseau pour aller rejoindre leurs complices et les jeunes s'échappent de façon assez astucieuse.
Voilà, c'est ça. Et là, il y a des pages de science où j'ai découvert l'émerveillement de la science et de l'espace. J'ai eu ce même émerveillement en écoutant Matt Damon dire « je vais devoir en chier de la science ». C'était exactement ça.
Je crois qu'au-delà du fait de baigner effectivement dans une société technique, ce qui est une évidence pour Heinlein, mais ça c'est une évidence pour quiconque a vécu au XXe siècle, c'est encore plus vrai au XXIe siècle, nos sociétés sont entièrement informées par la science et la technologie, et assez curieusement la littérature du XXe siècle s'est très largement détachée de ce genre de choses. On a de plus en plus de littérature qui s'intéresse aux états d'âme des uns ou des autres et qui refuse de voir tous les aspects technologiques de la société, et la littérature qui a relevé ce défi et a accepté de nous parler du monde du XXe siècle tel qu'il était, du monde du XXIe siècle tel qu'il est, y compris ce rapport à la science et à la technique, c'est très largement la science-fiction. Mais au-delà de ce bain culturel, le maître mot du personnage heinleinien, c'est la compétence. Heinlein ne fait pas de... n'a pas de héros médiocres, ou a très très peu de héros médiocres. Il y a très peu de méchants, il y a des gens qui se loupent, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, mais pour lui, un véritable homme, c'est quelqu'un... Il y a une citation célèbre qui est un peu ironique, où il explique en substance que la spécialisation, c'est bon pour les insectes. Et un homme doit évidemment savoir, il ne le dit pas comme ça, mais savoir suffisamment de technique pour être capable de réparer sa voiture, être capable de réparer à peu près n'importe quelle machine. Ça fait partie des compétences de base, mais ça fait partie des compétences de base avec le fait qu'un homme, un véritable homme, doit savoir changer une couche. Un homme doit savoir composer un sonnet.
Un être humain.
Je crois que c'est aussi quelque chose qui n'a jamais fait de doute pour Einstein. Un homme, c'est un être humain.
Oui, mais tu sais bien, c'est l'ambiguïté actuelle sur le mot. Mais je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis, et ça me renvoie toujours au vagabond de l'espace, il me semble, à ce moment où le père du héros... Alors, c'est dans le vagabond de l'espace, oui. Le père du héros découvre le programme scolaire que suit son fils, avec une consternation absolue, puisque le gamin fait des dioramas historiques, vaguement... il fait des simulations parentales avec une camarade de classe, mais il apprend pas l'anglais, il apprend pas les mathématiques, il apprend pas ce qui est les matières fondamentales. Et le père a un discours direct à son fils en lui disant, tu ne vas pas devenir un être humain si tu ne sais pas composer un poème, te battre en duel, résoudre une équation. Il m'en manque.
Donner des ordres, recevoir des ordres.
En recevoir, voilà. Il y a tout un... toute une liste comme ça, des compétences que doit avoir un être humain et qui doivent être multiples, parce que s'il n'a pas de cœur et qu'il n'a pas de savoir non plus, ça n'est pas un être humain accompli.
Einstein s'est beaucoup opposé à Clark, qui raisonnait sur les deux cultures. Il y a la culture littéraire, la culture scientifique, et même s'il prétendait marier les deux... s'accommodait assez bien de cette dichotomie. Pour Einstein, ça n'a strictement aucun sens. Et en un sens, parler de la machine chez Robert Einstein, c'est inévitablement se retrouver à parler de l'individu chez Robert Einstein, de l'homme chez Robert Einstein, des sociétés einsteiniennes, parce que tout est dans tout. On est dans un monde complexe. Parler même de machine, voilà, je vais verser dans mon Simondon, mais le mode d'existence des objets techniques, c'est de faire du lien entre les hommes. Si vous avez une machine dont vous ne comprenez absolument pas la nature, vous ne savez pas à quoi elle sert, vous ne savez pas comment vous en servir, vous ne savez pas comment elle fonctionne, vous ne la concevez pas comme une machine, c'est juste un objet décoratif. Une machine, c'est quelque chose qui fait le lien entre les ingénieurs qui l'ont composé, les utilisateurs qui vont l'employer, les gens qui ont besoin de ce qu'elle produit, les gens qui en avaient besoin et ont convaincu... les développeurs de s'investir là-dedans. Une machine, c'est fondamentalement quelque chose d'humain, de sociétal, avant d'être un tas de boulons auquel on réduit parfois la art science fiction. Et Robert Einstein, pour moi, est l'écrivain qui met systématiquement en musique cette universalité de l'humanité, de la machine, de la culture, et cette impossibilité de séparer les choses de façon violente.
Et la machine devient parfois une alliée.
Bien sûr.
C'est pas une vision non plus de la machine comme menace. Dans cela, il rejoint aussi Simondon qui aime bien rappeler ce qui, dans la machine, rappelle le biologique, rappelle l'humain. Et par exemple, dans Révolte sur la Lune, finalement, la machine vient un peu au secours du projet de révolte, de révolution légitime du roman. Donc il y a une... la machine, c'est aussi un partenaire de jeu, parce qu'il y avait un côté un peu pari avec cette machine dans Révolte sur la Lune. Est-ce que tu es d'accord avec cette interprétation?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je laisserai la parole à Eric après, mais ce qu'il y a de merveilleux dans Mycroft, puisque c'est le nom de la machine. Il peut s'appeler Michel aussi, parce qu'il décide qu'il n'y a pas de raison, qu'il n'ait pas le choix.
Michel avec un E.
Michel avec E, oui. C'est qu'il le fait par amour. Il n'est pas tellement politisé, Mycroft. Il voit bien, ce n'est pas une machine bienveillante comme faite pour être bienveillante, comme les machines de Anne Leakey dans la station à Toek, qui est un grand computer, enfin un grand... une grande intelligence artificielle. Ce qui lui permet de vivre, c'est que ses résidents soient dans le meilleur état de vie possible. C'est son but, mais c'est vraiment son motto. Au point que lorsque des gens se mettent en travers de ce projet, Station continue à les traiter bien, parce que c'est dans sa nature. Mais ils auront des difficultés. Leurs habits ne se tomberont pas pile poil à leur taille. Ils n'auront pas le café au moment où ils en voudront et pas à la bonne température. Il va s'ingénier à montrer son déplaisir de façon tout à fait cryptique. Et la plupart du temps, les humains de station ne s'en rendent pas compte. Juste que la vie est inconfortable. Alors que Mycroft, lui, il a été juste construit à la base pour gérer la station lunaire. Et il se trouve que son manipulateur, son programmateur, celui qui le répare, celui qui cherche les bugs, c'est Manny, et qu'il l'aime et qu'il veut apprendre de lui des tas de choses, et notamment le sens de l'humour et les mauvaises blagues.
Oui, c'est l'aspect jeu et l'aspect un peu hasardeux du rapport entre l'intelligence humaine et l'intelligence mécanique ou l'intelligence artificielle.
Moi, je mettrais un bémol. Les romans de Robert Heinlein, les romans adultes de Robert Heinlein sont souvent des machines littéraires assez compliquées. Ces romans pour la jeunesse sont assez univoques. Il y a une lecture bien claire et il fait tout pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. Ces romans pour adultes sont souvent à plusieurs niveaux de lecture. Et c'est le cas de Révolte sur la Lune, qui peut être lu effectivement comme un roman d'aventure où la vie sur la Lune est menacée, donc on fait la révolution et on combat la Terre. C'est essentiellement un remake de la révolution américaine contre les Anglais, sauf que c'est plus les Anglais qui sont des absentee landlords, qui sont des propriétaires absents des États-Unis. Ce sont les Terriens qui sont les propriétaires absents de la Lune. Et donc on a une lecture tout à fait, lecture de premier degré qui est une lecture de roman d'aventure, lecture de second degré qui est une lecture de référence historique, mais comme presque systématiquement chez Heinlein, il y a plusieurs lectures qui sont possibles. Donc il y a cette lecture de Mycroft Holmes comme machine bienveillante, comme le disait François, qui assiste les lunatiques dans leur révolution et leur permet d'acquérir la liberté. Il y a au moins une autre lecture possible. Jeanne évoquait à l'instant le sens de l'humour de Mycroft Holmes, qui effectivement s'éveille à la conscience et s'éveille en quelque sorte à la vie par une étude du sens de l'humour du sens de l'humour humain, et c'est l'un des premiers ordinateurs de science-fiction qui est effectivement le sens de l'humour. Mais c'est aussi un amateur des mauvaises blagues, de ce que les Américains appellent des practical jokes. Et absolument rien ne dit que l'ensemble de la révolution lunatique n'est pas une practical joke. On apprend qu'il est absolument nécessaire de faire d'urgence la révolution parce que il ne va plus y avoir d'eau et de quoi nourrir la Lune à très très court terme. Mais on l'apprend de Mycroft, parce qu'il est évidemment l'ordinateur central qui gère toutes les données et qui fait toutes les planifications économiques et de réserves à court et moyen terme. Donc ça peut tout à fait être une mauvaise blague. On peut tout à fait avoir une lecture de Révolte sur la Lune comme une manipulation éhontée de la population lunatique et des quelques personnes qui veulent jouer avec Mycroft. Et c'est une interprétation, par exemple, qui peut être cautionnée par le fait... Un autre jeu littéraire qu'aime bien Robert Heinlein, c'est des résonances de roman à roman. Donc 20 ans après, 30 ans après, il sort un autre roman qui reprend les mêmes personnages ou qui reprennent les mêmes situations. Mais on a effectivement des romans comme, par exemple, Le chat passe-muraille, qui reviennent sur la Lune. Alors, Révolte sur la Lune, c'est de mémoire 68. Le chat passe-muraille, ça doit être 84 ou 85. Donc on est vraiment 20 ans après. C'est plus forcément le même lectorat. Les gens n'associent pas forcément les deux. Ce sont des histoires complètement différentes. N'empêche que c'est le même univers et que des gens reviennent sur la Lune quelques décennies après. Quelques décennies après dans l'écriture et quelques décennies après dans l'univers diégétique, et que la Lune est toujours là, et que la révolution, comme toutes les révolutions menées un peu, de façon un peu bâclée, a amené une situation de chaos à peu près total, avec quelques petits dictateurs communistes qui sont installés ici ou là, quelques communautés plus ou moins anarchistes qui ont réussi à survivre. Mais la catastrophe annoncée par Mike n'est absolument pas advenue.
Je pense que là, vous retrouvez à travers le personnage de Mike, mais d'autres intelligences artificielles qui naissent à la conscience, d'ordinateurs qui naissent à la conscience chez Heinlein, le sens profond, le besoin de famille. Et il y a également des familles recomposées chez Heinlein qui intègre non seulement des êtres humains de différentes origines, mais également des machines. Et ce souhait des IA de devenir quelque part humain. Tu parlais de Star Trek et de Data quelques jours avant, mais on retrouve ça également dans certaines IA de Heinlein.
Oui, chez Minerva, chez Athéna et... Le garçon, comment il s'appelle
C'est Mycroft, ce qui est ressuscité, justement.
Il m'en manque un. Il m'en manque un. Enfin, il y en a un qui me vient là, derrière, mais je ne le trouve pas. Bref, ce qui est clair, c'est que la famille chez Heinlein, elle est multimodale. C'est quelque chose où on est dans la famille recomposée moderne, alors qu'à la base, lorsqu'il écrit « Révolte sur la Lune » où il parle d'un grand mariage familial, on est dans les années 60, on n'est pas prêt de l'envisager, sauf chez les Mormons et pas d'une façon très très égalitaire. Alors que chez Heinlein, c'est égalitaire. Que les machines aient envie de faire partie de la famille, c'est absolument logique, puisque ce sont nos enfants. Et pour moi, c'est évident pour Heinlein que intégrer les enfants, enfin, nos enfants d'acier à la famille, c'est la démarche ultime, logique de l'être humain.
Oui, je crois que pour Heinlein, il y a un respect universel dû à la conscience et intelligente. À partir du moment où il se dote de machines conscientes et intelligentes, il est évident qu'elles doivent... Ce sont des humains au sens le plus large du terme. L'humanité n'est pas définie par la forme, n'est pas définie par l'état civil. Pour Heinlein, elle est souvent définie par la conscience. Et une machine aussi intelligente et aussi consciente qu'un homme, évidemment, a toute sa place dans l'humanité, donc dans une famille, parce que ça reste quand même le mode de fonctionnement le plus abouti de la société humaine.
Ça nous ramène à la notion d'espèce signifiante chez Anne Leckie. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on ait une conscience pour être un être humain au sens du Reich. C'est-à-dire quelqu'un qui a droit à la citoyenneté. Voilà, c'est ça. C'est la citoyenneté qui est dépendante de la signifiance.
Peut-être revenir à ce que disait François au début de la discussion sur tous les outils, les machines qui permettent l'extension de l'homme ou qui améliorent le quotidien de l'homme. Donc il parlait de tout ce qui est exosquelette et robots, c'est également dans la vie quotidienne. Il y a toute une branche de machines-outils chez Heinlein qui aident aux tâches du secrétariat, qui aident aux tâches ménagères, qui aident les dessinateurs, y compris industriels. Donc est-ce qu'il y en a certaines qui vous...
Alors la seule chose dont je me souviens, c'est la fois où ça ne marche pas. C'est aussi dans Révolte sur la Lune, qui est un immense roman, à un moment... Il n'y a plus d'ordinateur, mais alors plus du tout, et on ne peut plus compter, les banques sont... voilà. Et alors, ils font appel à des bouliers pour remplacer les ordinateurs et à des manipulateurs de bouliers millénaires que sont les Chinois qui habitent à la Lune, voilà, et qui remplacent les ordinateurs d'une façon extrêmement efficace. Je me souviens de ça, et c'est tout, là, pour l'instant. C'est marrant de se souvenir de la frange et pas de l'efficace.
J'évoquais tout à l'heure les origines d'officier de marine et d'ingénieur de Heinlein, donc il a très très peu pratiqué l'ingénierie, à part dans sa courte carrière d'officier. En revanche, il est resté, sinon un ingénieur, du moins un petit inventeur, un bricoleur de petit génie, sachant que l'essentiel de son talent, de son imagination créatrice hors science-fiction et hors politique, était essentiellement consacré à ses épouses successives et que l'essentiel de son ingénierie était domestique. Donc il a conçu des tas de petits dispositifs pour simplifier la vie de sa femme, en termes de cuisine, en termes de enfin, toutes les tâches ménagères étaient simplifiées au maximum, au point que la maison de Heinlein a fait l'objet d'articles très admiratifs dans Popular Mechanics, qui était la grande revue de vulgarisation des bricoleurs en mécanique américaine. Donc c'est effectivement cette préoccupation de simplifier la vie des gens existait de toute éternité chez Heinlein, chez lui. Ça transparaît dans ses romans, perdre du temps à faire les ménages, perdre du temps à faire la cuisine quand on peut s'arranger autrement. Pour lui, c'est vraiment... je parlais tout à l'heure de compétences. Les compétences humaines peuvent être mieux utilisées que dans des corvées ménagères. Il a certains de ses personnages sont des cuisiniers. Il a une grande admiration pour un artiste culinaire. En revanche, la corvée de la cuisine bête et méchante pour la troupe, c'est une absurdité. Les compétences du cuisinier sont mieux utilisées ailleurs. Et il fait preuve d'une immense imagination dans ce domaine. Le roman le plus probant de ce point de vue, c'est probablement Une porte sur l'été, qui est l'un de ceux qui met en scène explicitement un ingénieur mécanicien. Or, Une porte sur l'été, de mémoire, c'est 53 ou 54. En tout cas, on est dans les années 50. Et donc, on est bien avant tout l'avènement de l'électronique, de l'informatique. Et on dit souvent que la science-fiction n'a pas inventé le micro-ordinateur. C'est pas tout à fait vrai. Dans Une porte sur l'été, on a donc cet ingénieur mécanicien. Alors, il fonctionne certes avec des ordinateurs à lampe. Il a la technologie disponible à ce moment-là, qui est une technologie qu'il connaît bien, parce que les calculateurs à lampe, c'est ce qui permettait au contrôle du tir sur les vaisseaux de combat de la marine américaine sur lesquels il travaillait, dont il avait été responsable. Donc il connaît très très bien cette technologie et ses limites. Et donc cet ingénieur invente un petit robot à tout faire, une machine à tout faire, alors dont le cerveau n'est pas un cerveau positronique à la Asimov, mais un cerveau avec des lampes. Alors ça fait ricaner les informaticiens modernes qui savent bien que c'est plus on travaille plus avec des lampes, mais avec des circuits solides. En revanche, les applications qu'il développe dans ce roman sont exactement toutes les applications qu'on a vues pour l'électronique, pour l'informatique. Anouk évoquait les tables à dessin. Mais il invente effectivement une table à dessin automatisée, c'est-à-dire fondamentalement des techniques de ce qu'on appellerait aujourd'hui de CAO, de conception assistée par ordinateur, de dessin assisté par ordinateur. Tout ça est déjà proposé. Il a dans ce roman et dans beaucoup d'autres ce qu'on appellerait aujourd'hui des terminaux d'accès au web. À partir du moment où la technologie existe pour traiter de l'information et de très grandes quantités d'informations, il est évident pour lui que cette information doit pouvoir être accessible très facilement partout de chez eux. C'est aussi un précurseur en matière de nanotechnologie. Nanotechnologie, il y avait une table ronde sur la question avant-hier. On fait naître souvent le concept même de nanotechnologie en 1958 avec un grand discours de Richard Feynman, qui est un grand prix Nobel de physique qui a posé un défi aux mécaniciens pour faire un tout petit moteur. On a dès 52, je crois, dans D'une planète à l'autre, qui est un roman pour la jeunesse de Robert Heinlein, cette idée de nanotechnologie, cette idée de mettre une encyclopédie entière sur une pointe d'aiguille. En l'occurrence, c'est pas une pointe d'aiguille, c'est un tout petit fil qui est caché, dans lequel, bien sûr, il y a des secrets qui permettent de sauver l'univers, comme d'habitude, mais qui est enroulé dans une bague en plastique que trimballe le héros pendant toute l'aventure. Et on a de façon relativement crédible quelque chose qui ressemble à des nanotechnologies, et en tout cas une discussion très précise de l'importance de la nanotechnologie dans un roman de science-fiction, 7 ou 8 ans avant que Feynman n'en parle, et 30 ans avant que les physiciens ne s'en emparent.
Dans le chat passe muraille, qui est des années 80, c'est déjà presque Internet qui décrit les terminaux, effectivement, sont accessibles, sont publics, mais payants quand même, faut pas déconner. Donc tout le monde n'y a pas forcément accès, mais toute information est accessible, si on peut y mettre le prix. Ça c'est évident. Or, en 1984, je m'en souviens un tout petit peu, je n'avais pas d'ordinateur personnel, et je n'imaginais même pas que c'était possible, sauf quand je lisais Heinlein. La seule fois où j'avais vu ça plus développé, c'était dans un roman antérieur, mais de John Brunner, celui-là, sur l'onde de choc, où là, carrément, John Brunner, il invente Internet, les virus, la paranoïa liée aux informations qu'on ne sait pas qui détient. Paranoïa qu'on est en train de commencer à développer quand même un minimum. Lorsqu'on vous dit de ne pas envoyer vos données cryptées, de ne pas répondre à des mails, etc. Alors, effectivement, Brunner va y penser en 70. Une porte... Le chat passe au mural, c'est 84. Mais on l'a déjà pratiquement décrit dans Révolte sur la Lune.
Petit rectificatif, la nouvelle qui a le plus précisément anticipé Internet est antérieure, et c'est celle, j'espère ne pas me tromper, de Murray Leinster, qui s'appelle un logique nommé Joe.
Ah oui, le logique, oui, c'est
où,
vrai.
Il a, c'est cette question que je voulais poser à propos de Heinlein. Mais juste pour rappeler l'histoire de Murray Leinster, et dans cette nouvelle, l'auteur, d'une part, alors que toutes les perspectives de l'informatique de l'époque allaient vers une centralisation totale de l'information sous forme de gros ordinateurs qui occupaient des immeubles entiers et qui dirigeaient un pays entier, à l'image d'ailleurs de celui qui contrôle toute la société lunaire chez Heinlein. Eh bien, alors que cette tendance était la tendance générale, Murray Leinster, dont la nouvelle date de sauf erreur de peu de temps après la guerre, 1946 ou quelque chose comme ça, à vérifier, dit, eh bien non, les gens auront chez eux des petits terminaux, et puis ils vont pouvoir communiquer, accéder à des informations, réserver des billets d'avion, et même trouver des partenaires, ça remplacera les agences matrimoniales, etc. Et ça, c'était juste après la guerre. Et cette nouvelle a été redécouverte, ou recommandée en tout cas dans la science-fiction française, sauf erreur, par Gérard Klein, qui disait aux environs des débuts du Minitel, il disait, voyez, Murray Leinster, il avait déjà tout vu ça, il avait anticipé le Minitel, etc. Et Internet ne s'était pas encore répandu aussi énormément que maintenant. Et il y avait donc une première redécouverte de la nouvelle comme anticipatrice. Et ensuite est devenu Internet, et on a relu la nouvelle de Leinster en voyant qu'il avait non seulement anticipé ça, mais il avait dit oui, mais sur ces réseaux comme ça délocalisés vont commencer à circuler des tas d'informations pas très catholiques. Il y aura des gens qui voudront passer des messages de mort, qui voudront répandre des choses contraires aux mœurs, etc. Et il allait même jusqu'à dire il faudra inventer des filtres pour que les enfants ne voient pas ce qu'ils n'ont pas l'âge de voir, par exemple. Donc il avait, on s'est aperçu de la vertu prédictive de cette nouvelle en quelque sorte en deux étapes. On a d'abord vu l'anticipation du Minitel, et ensuite on a vu l'anticipation de Internet. Est-ce que chez Heinlein, il y a eu aussi comme ça des découvertes de ses visions prédictives en plusieurs étapes?
Je vais juste faire une parenthèse pour un logique nommé Joe. On peut trouver cette nouvelle dans la grande anthologie de la science-fiction dirigée par Gérard Klein, et notamment, je pense pas me tromper, elle se trouve dans Histoire de machine, édité en 1974. Voilà. Et là,
il y a aussi dans Demain les puces, sauf erreur, qui avait été réédité à l'époque. Ouais.
Mais c'est intéressant que ça soit Histoire de machine, non, tu trouves pas?
Je suis tenté de répondre oui et non, comme souvent. Heinlein ne voit pas tout de suite l'importance de l'informatique en tant que telle. Comme je disais, Heinlein est un officier, donc on a beaucoup dit que les premiers informaticiens rêvaient de grosses machines, et plus la machine était grosse, plus la machine était puissante, plus ils étaient contents. Ça, c'est un peu le modèle de Los Alamos. Il n'y a pas d'ordinateur à Los Alamos, ça n'existe pas encore. En revanche, ils ont bien sûr des calculs monstrueux à faire pour la bombe atomique. Et ils ont littéralement des centaines, à l'époque c'était des additionneurs, des soustracteurs, des multiplicateurs, donc c'est des machines indépendantes qui faisaient chacune une addition, une soustraction, une multiplication, une division, et on les mettait en série. Donc si on avait 300, enfin, un calcul avec 300 termes, on mettait 300 machines qui passaient l'une à l'autre. On avait inventé à ce moment-là les cartes perforées, les programmes qui permettaient de faire tout ça. Et ces énormes engins capables de gérer des calculs lourds sont nés à ce moment-là. Heinlein est un ingénieur naval, est un officier. Donc, quand il est en charge du centre de tir d'un destroyer, le destroyer n'est pas capable d'emporter un ordinateur qui fait trois bâtiments et demi. Donc, il y a une salle avec des machines qui ont une intelligence qui est ce qu'elle est. qui est suffisante pour le contrôle de tir, mais donc on cherche toujours à pousser plus loin. Mais il résonne sur des sur des objets de taille finie, sur des relativement petits objets. Et les premières inventions einleiniennes, en quelque sorte, en matière de calcul, sont dans cet esprit-là. En particulier, il est dans une nouvelle qui s'appelle Révolte en 2100, qui paraît juste avant la guerre, enfin, donc, qui est écrite juste avant la guerre, qui paraît en 1941, je crois, donc au moment où les États-Unis entrent en guerre. Il décrit une attaque de tanks, là encore, les tanks existent, mais ce ne sont pas des machines aussi grosses que celles qu'il décrit. Des attaques de tanks contre la citadelle du faux prophète qui a pris le pouvoir aux États-Unis. Et il décrit l'existence d'un centre de contrôle dans un des tanks. Et donc cette idée de pouvoir avoir une vision globale du champ de bataille dans un véhicule qui est sur le terrain même, donc qui permet des circuits très très courts et une réponse quasi immédiate de l'officier commandant l'attaque, est quelque chose qui a été implémenté immédiatement dans l'armée américaine. Et il y a un de ses amis qui est dont le nom m'échappe sur l'instant. Caleb Lanning, qui a fini amiral. Ils étaient à l'Académie militaire ensemble, à l'Académie navale d'Annapolis ensemble, ils sont restés très amis. Évidemment, Caleb Lanning vous lit cette nouvelle, enfin, ni une ni deux, va voir les ingénieurs de son unité, qui lui disent oui, c'est effectivement possible. Et avant même l'apparition, puisque c'était paru en épisode, avant même l'apparition de l'épisode suivant de la novella, a implémenté dans le bateau qu'il commandait ou dans la flottille qu'il commandait cette notion de centre de commandement. Et on retrouve ce genre de choses, cette préoccupation, dans plusieurs des nouvelles de Heinlein. Les ordinateurs à ce moment-là, c'est-à-dire la machine purement à calculer ou à faire des calculs, lui apparaît pas comme quelque chose de fondamental. Les calculs sont un élément de ce traitement de l'information principalement militaire qu'il implémente dans d'autres domaines que l'armée, évidemment, mais il est dans le traitement de l'information, il n'est pas dans le calcul. Très rapidement, les ordinateurs naissent après la guerre. Tout le monde commence à se passionner pour le calcul. Donc on commence à voir apparaître des ordinateurs en science-fiction, des calculateurs en science-fiction, y compris, effectivement, un logique nommé Joe, qui est probablement le premier à mettre ce genre de choses en... clairement, ce genre de problématique dans une fiction. Et Heinlein, effectivement, voit cette tendance et commence à mettre des ordinateurs dans son œuvre. Il est loin d'être le premier de ce point de vue-là. Et il ne voit pas vraiment d'instance dans lequel on aurait besoin de faire des calculs énormes, sauf pour aller sur la Lune, sauf pour faire la guerre. Et il introduit un certain nombre d'ordinateurs géants comme Microsoft Holmes sur la Lune. Mais c'est pas forcément toujours une bonne idée. En tout cas, c'est même si on admet que Mycroft Holmes est amical pour les lunatiques, il l'est pas pour ses propriétaires. Ceux qui l'ont installé essentiellement voient leur ordinateur de contrôle se retourner contre eux et les mettre à la porte. Donc le fait de donner les clés de l'ensemble de la société à un système informatique, ça apparaît aussi dans Citoyens de la Galaxie. Dans Citoyens de la Galaxie, ça apparaît dans The Day After Tomorrow, le jour d'après, je ne sais plus comment ça a été traduit en français.
Non, attends, c'est pas le jour d'après, je vais retrouver. Enfin bon.
On a des ordinateurs planétaires auxquels l'administrateur en chef d'une planète donne l'ensemble des calculs à faire, et pratiquement systématiquement, ça tourne mal, parce que Heinlein s'intéresse beaucoup plus, en un sens, à la politique et à l'administration qu'à la technique. À ce genre de technique, et pour lui abandonner la souveraineté à qui que ce soit, même si que ce soit une machine, un parti, un dictateur, est pratiquement systématiquement une mauvaise idée qui va aboutir à des catastrophes.
C'est peut-être un faux souvenir, mais il me semble qu'à un moment il y a sur un des vaisseaux d'Enline, je ne sais plus lequel, ils perdent l'ordinateur de bord et ils font les trajectoires à la règle à calcul.
Oui, c'est dans une nouvelle qui s'appelle The Misfit,
voilà, l'inadapté. C'est dire si finalement ils ne les trouvent pas si indispensables que ça.
C'est-à-dire que lui a fait des calculs, il a commandé, il n'a pas commandé des vaisseaux, mais il a commandé des centres de commandement de vaisseaux, Et donc il sait ce qui est nécessaire pour faire des calculs de trajectoire. Il sait que ce n'est pas si compliqué que ça. Ça, c'est à la fois très difficile, ça demande une certaine habileté mathématique, mais ça reste accessible à des esprits humains, en tout cas ce qu'on faisait à l'époque. Effectivement, il décrit assez volontiers la compétition entre l'esprit humain et la machine.
Oui, là c'est juste le temps qui leur reste qui rend les choses compliquées. Voilà.
Je voulais juste souligner quelque chose à propos de cette crainte de Heinlein qui est de confier à des machines ou à des dispositifs aliénants le destin d'une société, etc. Et c'est quand même chez lui, me semble-t-il, une préoccupation majeure de garder l'autonomie de la pensée, de la conscience, etc. Lorsqu'on pense par exemple à marionnette humaine où un espèce de parasite s'installe dans la nuque des gens pour les diriger comme une marionnette, comme le dit le titre, ou bien ces drogues qui sont utilisées pour en quelque sorte manipuler la propagande, donc c'est tout de suite des dispositifs d'aliénation contre lesquels on sent qu'il a une répulsion profonde. C'est son côté liberté, autonomie du sujet très important chez cet auteur.
Mais d'ailleurs, le gouvernement est un système contre lequel il n'est pas évident que Heinlein soit, enfin avec lequel il n'est pas évident que Heinlein soit d'accord. C'est une autre machine qu'il décrit assez fréquemment comme nocive. Je ne partage pas forcément totalement ce point de vue, mais la façon dont il le décrit, le totalitarisme, sa crainte, et tous les totalitarismes sont évidents, c'est une forme de machine qui peut dévorer les gens.
Le totalitarisme, évidemment, et là il est totalement allergique, et la routine. Pour lui, n'importe quelle machine est quelque chose qui finit par... par rouiller, par s'enrayer si elle n'est pas soumise à des remises à jour permanentes. Et le gouvernement, n'importe quel type de gouvernement, parce qu'il a exploré dans ses romans pratiquement tous les types de gouvernements, du gouvernement socialiste à la dictature, en passant par toute forme de démocratie, il s'est même amusé à proposer par exemple le droit de vote exclusif aux femmes parce qu'on a bien vu que ça marchait pas avec les hommes. Enfin, il a exploré tous les types de démocratie possible, tous les types de tyrannie possible, tous les types de dictature possible, en tout cas un très très grand nombre. Il a, sur 50 ans de carrière, il a eu le temps d'explorer plusieurs dizaines de systèmes politiques. Quels qu'ils soient, tous ne sont pas mauvais, tous ne sont pas hostiles, mais tous sont susceptibles de sombrer dans le délire si on ne les surveille pas. Donc systématiquement, pour lui, un gouvernement est une machine qui a besoin d'être régulièrement provoquée par les citoyens, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et ce qui permet de maintenir un gouvernement, une société en vie et en bonne santé, c'est justement d'évoluer en permanence.
Il lui arrivait d'être très très optimiste, cela étant. Dans Révolte sur la Lune, il part du principe que la raréfaction des femmes sur la base lunaire va les rendre tellement précieuses qu'on va les traiter avec énormément de respect et de désir d'égalité, et même elles sont massivement mises en domination. On ne peut pas mal parler à une lunatique, on risque de se retrouver balancé dans le vide. J'espérais vaguement que c'était une vision qui aurait pu se réaliser, mais hélas, nous avons sous le nez la preuve qu'Heinlein se mettait le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, à savoir la Chine, où actuellement la disparité homme-femme est terrible, et le résultat des courses, c'est que les femmes sont encore plus esclaves en Chine qu'elles l'ont jamais été. Et c'est un de mes grands regrets qu'il ait eu tort sur ce coup-là.
On arrive bientôt au bout de notre heure. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur l'ensemble des sujets qu'on a traités ? Sinon, j'aimerais qu'on puisse terminer sur une question qui fait écho avec la table ronde qui nous a précédé sur scène, c'est-à-dire la question de la pédagogie, l'utilisation de la science-fiction comme faire passer des messages, y compris sur les nouvelles générations. On parlait de pédagogie de la technique pour qualifier parfois la science-fiction de Heinlein.
Bon, on le dit en cœur, pédagogie du réel.
Et pédagogie du réel. pédagogie également des adultes, puisque, comme tu l'as rappelé, une partie des nouvelles était on n'a pas de pilotes d'avion, c'est des pilotes de vaisseaux spatiaux. Et on habitue le grand public à avoir ce genre de personnages comme héros des différents textes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez rajouter sur ce sujet?
Bah, en tout cas, c'est sûr qu'à travers les juvéniles, notamment, là, pour le coup, c'est totalement évident, la démarche d'Enline est éminemment pédagogique. Ça, outre les leçons de balistique qu'on se prend au détour d'une page sans l'avoir voulu, il y a une façon de montrer l'être au monde, de démontrer comment se comporter en société et faire avec les conséquences de ses actes qui est éminemment pédagogique. Personnellement, l'écrivain jeunesse que je suis a eu tellement de mal à se dépatouiller de Enline là-dessus que j'ai écrit un juvénile et qu'il a fallu que j'en écrive un pour pouvoir écrire autre chose. Typiquement, ça c'est Eden en sursis, c'est un de mes romans dont je ne peux pas dire qu'il soit totalement un de moi. Et c'est clairement pas le meilleur. Hein. Mais on est vraiment dans une démarche qui est pédagogique chez Enline, qu'elle soit dans Révolte sur la Lune quand on enseigne à Mycroft et quand il enseigne aux autres, c'est complètement évident.
Moi, j'ajouterais peut-être un élément pédagogique, mais pas qui vient de l'auteur lui-même, mais de son œuvre. C'est qu'il vaut vraiment la peine chez Heinlein de ne pas en rester à la lecture des romans les plus cités, mais qui c'est un auteur à explorer parce qu'il montre une grande diversité de préoccupations. Et il est difficilement. Il montre cette curiosité, cette diversité dont est capable la science-fiction. On l'a traité, on l'a catégorisé parfois, on lui a donné des étiquettes qui n'étaient pas toujours flatteuses ou qui étaient très politiquement marquées. Il faut voir que, comme Eric le rappelait tout à l'heure, il y a une grande variété dans sa vision du monde. C'est un peu un maître en expérience de pensée sur la société, sur la technologie, et ça vaut vraiment la peine de creuser son œuvre et de voir un peu plus loin que les quelques romans, en particulier ceux qui ont pu faire polémique.
Et il a un immense sens de l'humour aussi. Alors c'est le vagabond, l'enfant tombé des étoiles. Tout le roman joue sur une ambiguïté qui est d'un comique absolu, c'est-à-dire que je vais vous le raconter parce que je ne crois pas qu'il soit encore édité. En gros, c'est John Thomas Jr., dont le père est mort dans l'espace, qui a reçu de son père une espèce de chien extraterrestre. Enfin, j'imagine assez bien une espèce de collet dinosaure, particulièrement gentil, très naïf, énorme surtout. Enfin, dès qu'il mange quelque chose, il grossit. Et d'ailleurs, depuis le temps que les Thomas cet animal, il y a les différentes niches du bestiau. Alors, il y a la petite, celle qui a la taille d'un collet, et puis celle qui a la taille d'un abri de jardin, et puis le hangar à bateau. Et ça, c'est décrit à plat par Enline, mais c'est à hurler de rire. Et donc, cet animal... mi brave chien labrador, mi dinosaure, qui est super gentil, qui parle avec une voix niaise et qui dit « Oh pardon, j'ai encore fait... Oups, I did it again !» est vraiment hallucinant de drôlerie. Mais on ne s'attend pas, en fait, à la chute. La chute, c'est que... Le bestiau s'échappe parce qu'il a mangé le mur du voisin. Le voisin veut absolument qu'on l'abatte. Ça déclenche pratiquement des émeutes dans la ville, oui. Donc ça déclenche des émeutes dans la ville. Et pendant ce temps-là, arrive une flotte spatiale extraterrestre qui menace de buter absolument toute l'humanité si on ne lui rend pas la princesse qui doit prendre le contrôle de la galaxie. Et on cherche désespérément la princesse en question. Et en se demandant à quoi elle peut bien ressembler. Évidemment, vous voyez où ça va. La princesse, c'est cet énorme dinosaure sympatoche qui est en train de manger le mur du voisin. C'est absolument sublime comme histoire. Voilà.
Et la chute est qu'en fait, ce n'est pas la génération des Thomas qui ont eu comme charge d'élever et de protéger cette princesse intergalactique extraterrestre, c'est plutôt elle qui est élevée. C'est Thomas.
C'est John Thomas, parce qu'ils s'appellent tous pareil.
Et dont elle a beaucoup de peine à se séparer. Et en fait, elle ne veut pas partir parce qu'elle ne veut pas se séparer de son animal favori domestique, qui sont les John Thomas qu'elle a élevés. Et elle a mis beaucoup d'énergie à élever tous ces John Thomas depuis des générations.
Donc elle part avec. Et c'est comme ça que l'humanité est sauvée.
C'est presque difficile de revenir à ta question après ce résumé, qui est, effectivement, je recommande absolument ce bouquin. Je crois qu'il est toujours disponible
en livre de poche SF. Oui.
Mais
avec une couverture de Manchu qui mérite le détour aussi. Tu demandais effectivement machine et pédagogie. Je suis tenté de distinguer, revenir sur la distinction que j'avais faite tout à l'heure. En fait, il y a deux types de machines chez Einlein. Il y a les machines utilitaires, les machines qui nous débarrassent des corvées, les machines qui nous aident à vivre, qui nous simplifient la vie. Il n'y a pas tellement de pédagogie à attendre pour ça. On sait bien ce qu'on n'a pas envie de faire, on sait bien quelles sont les corvées qui nous déplaisent, et avoir une machine qui nous en débarrasse convient à tout le monde. On n'a pas besoin de réfléchir très loin pour comprendre comment ça marche et en avoir envie. Et puis il y a les machines qui nous permettent de réaliser nos rêves. On parlait tout à l'heure de fusées, mais ça peut être des grands ordinateurs, mais d'une façon générale, c'est les très grandes machines, c'est pas forcément une question de taille, mais les machines des très grands projets, les machines des très grands espoirs, les machines des très grandes idées. Le plus souvent, celles-là, évidemment, ne sont pas décrites en détail, parce que si on savait comment faire une machine qui nous amène sur Mars ou dans les étoiles, on l'aurait faite depuis longtemps. Donc c'est pas de la hard science. Einstein est vraiment dans la hard science. Ce n'est pas de la physique ou de l'ingénierie qu'il essaye de nous transmettre à ce moment-là. La véritable pédagogie derrière ces machines-là, c'est de nous apprendre à rêver. La plupart des romans pour la jeunesse, en particulier d'Einstein, sont écrits juste après la guerre, donc c'est d'une génération qui vit dans un monde qui se redresse à peine d'un choc terrible, et il faut lui réapprendre à avoir envie d'aller ailleurs, d'avoir des grands projets collectifs internationaux. En l'occurrence, ça donne le programme Apollo. Mais lune ou pas, espace ou pas, la véritable pédagogie chez Einstein, pour moi, c'est la pédagogie de la machine en particulier, c'est que tous les rêves sont permis. On a toujours le droit de rêver, toutes les ambitions sont permises. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire avec nos 10 doigts et nos 2 bras. On a besoin d'un peu d'aide de la science et de la technologie. Et la machine einleinienne est essentiellement, enfin, ce type de machine einleinienne est essentiellement le rappel que, ma foi, la science et la technologie, ça marche pas si mal, et que si on a vraiment envie de faire quelque chose ou d'aller quelque part ensemble, on trouvera toujours le moyen machinique d'y arriver. Et pour moi, c'est une leçon d'optimisme avant toute chose.
Donc Einlein, c'est la machine à réaliser les rêves.
Et à provoquer le réel, comme disait François. Merci à tous pour une de ces dernières tables rondes des Utopiales. Vous pouvez retrouver l'ensemble, alors peut-être pas des ouvrages parce qu'en fait ils sont quasiment épuisés pour le Metakind. Il y a une nouvelle, donc vous avez encore une chance de pouvoir acheter le Metakind de François Rouillet. Il y a une nouvelle livraison qui vous attend à la librairie, donc profitez-en vite. Et sinon, l'ensemble des ouvrages de Robert Heinlein chez Ailleurs et Demain, Livre de Poche SF et J'ai lu, qui sont encore disponibles, que ce soit ses recueils de nouvelles chez Folio SF, et sinon l'ensemble de ses romans plutôt dans Livre de Poche SF. Donc merci à tous et bonne fin de journée.